voulais continuer avec cet évangile dans cet évangile de Matthieu. Et je vous propose donc de lire le texte qui est un petit peu après celui qu'on a lu en introduction. Donc il va commencer à partir du verset 15, donc toujours de ce chapitre 12 de Matthieu, du verset 15 jusqu'au verset 21. Et avant de commencer la lecture, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ce texte. Quand j'étais plus jeune, je me rappelle d'une conversation que j'ai eue avec un pasteur dans un... C'était un camp du GBU. Ce pasteur donc nous proposait de discuter du doute et de notre relation avec le doute, notre lutte contre le doute. Et à ce moment-là de ma vie, j'étais un jeune chrétien. Enfin, j'étais déjà chrétien depuis quand même quelques années, mais je me suis rendu compte qu'on ne parlait pas du même doute. Lui parlait du doute qu'il pouvait vivre. Moi, à ce moment-là, quand je parlais du doute, je disais, mais le doute est bon, parce que dans ma vie, le doute, moi, je doutais surtout de moi. Je doutais de, est-ce que je prends les bonnes décisions? Est-ce que je suis le Seigneur correctement? Est-ce que je parle de lui de la bonne façon? Je doutais d'abord de ma foi et de mon engagement. Et donc pour moi, le doute était bon. C'était bien de douter, de ne pas être trop sûr de sa propre justice, hein, ça vient vite. Lui me parlait plutôt du doute qu'il pouvait vivre dans sa relation à Dieu. À ce moment-là, je ne comprenais pas très bien. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, je comprends mieux. Je comprends mieux, j'ai vécu plus de choses. Et moi aussi maintenant, je passe par des phases de doute où ce doute, ça se manifeste par un questionnement à Dieu. J'en suis dans ma vie où j'ai vu des souffrances, j'ai vu des situations que j'ai pas compris, et j'ai demandé à Dieu pourquoi. Il y a plein de pourquoi qui arrivent dans notre vie, hein, avec l'expérience, avec les années, la certitude, les certitudes, les choses qui nous paraissaient évidentes, eh bien on se rend compte que à l'épreuve des faits, à l'épreuve de la souffrance parfois, en ayant un regard un peu plus vaste sur ce qu'est le monde, eh bien, on comprend moins bien. Alors on questionne Dieu, on lui demande pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu choisis ce chemin-là? Et alors évidemment, ces questionnements, parfois ils sont forts, parfois moins, parfois la proximité avec le Seigneur nous permet de d'accepter, de vivre sans les réponses. Hein, parce que on sait bien que ces pourquoi sont souvent sans réponse. Et parfois il faut accepter la réponse que Dieu donne à Job. Hein. Il lui dit, je suis Dieu. Je pensais à ces moments, voilà, ces moments de doute, ces moments de. Où ma foi me semblait si faible, où je me disais, si j'ai tellement d'interrogations, comment est-ce que je peux apporter une certitude à ceux qui sont autour de moi? Et dans cette constatation de ma propre faiblesse, je me disais, mais il y a un texte qui nous parle de cette foi. De cette foi qui vacille. Et donc c'est ce texte qu'on va lire maintenant, ce texte qui, je pensais, allait m'apporter du réconfort. Et je pensais aussi à vous, évidemment. Je pensais aussi à mon église, Et aussi, et les doutes qu'on peut aussi avoir par rapport à l'Église, hein, évidemment. Et je me disais, mais mes frères et sœurs aussi ont besoin d'être encouragés, que leur foi soit fortifiée. Et donc ce texte, dans Matthieu 12, où Jésus parle à ses disciples, donc le texte précédent, en fait, donc, parle de la façon dont les pharisiens le rejettent. D'accord ? Et le texte nous dit que face au miracle qu'il accomplit, face à la remise en question de leur façon de fonctionner, les pharisiens veulent le tuer. Ils veulent faire mourir Jésus. Et donc, voilà, je lis à partir du verset 15. « Quand Jésus sut qu'on voulait le tuer, il partit de là. Une grande foule le suivit et il guérit tous les malades. Mais il leur défendit formellement de le faire connaître. Ainsi devait s'accomplir cette parole du prophète Ésaïe. « Voici mon serviteur, dit Dieu, celui que j'ai choisi, celui que j'aime et qui fait ma joie. Je ferai reposer mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne cherchera pas querelle, il n'élèvera pas le ton. On n'entendra pas sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau qui se ploie. Il n'éteindra pas la lampe dont la mèche fume encore. Il agira encore jusqu'à ce qu'il ait assuré le triomphe de la justice. Tous les peuples mettront leur espoir en lui. » Alors, cette mèche qui fume encore, c'était à ça que je pensais. Il n'éteindra pas la mèche qui fume encore, même si ta foi est faible. Eh bien, il soufflera dessus pour la raviver. C'était à ça que je pensais. Mais ce texte, on voit bien qu'il n'est pas centré sur la faiblesse de la foi. Il est centré sur, le Christ. Il est centré sur l'accomplissement de cette promesse que Dieu avait fait à Ésaïe, cette promesse du serviteur. Et finalement, c'est peut-être ça qui est le plus réconfortant. Alors, on va quand même regarder un peu ce qui se passe dans ce passage. Donc on voit que Jésus a contesté avec les pharisiens sur leur interprétation de la loi. Et que les pharisiens décident de le faire mourir parce qu'ils contestent leur pouvoir. Et la façon dont Jésus va réagir à ça, eh bien, c'est qu'il va, il va fuir la confrontation. Il va échapper à ce conflit dans lequel les pharisiens veulent le faire entrer. Jésus partit de là. Mais évidemment, tous ceux qui ont été guéris par lui, eh bien, le suivent. Et il va répondre à leur attente. Il va les guérir. Tous les guérir, nous dit le texte. Et ces guérisons miraculeuses, le texte d'après va nous montrer que elles lui permettent de témoigner de qui il est, du fait que effectivement il est envoyé par Dieu. Le texte qu'on lit là, voici celui que j'ai choisi, celui que j'aime et qui fait toute ma joie. Ces paroles-là, vous vous rappelez qu'elles ont été prononcées à un autre moment. Elles ont été prononcées au moment du baptême, hein, du baptême de Jésus. Et là, c'est même Dieu lui-même qui les prononce, qui les fait entendre à tous ceux qui peuvent les entendre. Voici mon serviteur, celui qui fait toute ma joie. Pourtant, le fait que Jésus, donc, d'une part, refuse le conflit physique, d'autre part, le fait qu'il défende formellement à tous ceux qui sont guéris de le faire connaître. C'est étonnant, cette façon de faire. Alors, bon, je le redis, on l'a déjà dit plein de fois, mais les Juifs, à ce moment-là, attendent un Messie politique, quelqu'un qui les délivre de l'occupation romaine. Et Jésus refuse ce rôle-là. Il refuse de rentrer dans une démarche de pouvoir, de puissance, de libération physique et politique et du peuple. Et ça se manifeste en particulier à ce moment-là, au moment où il refuse d'utiliser la manifestation de sa toute-puissance, hein, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. Hein, quand il guérit tous les malades, c'est une intrusion de la toute-puissance de Dieu dans notre monde physique. D'accord ? Il accomplit un miracle. Hein, Dieu ne un miracle, hein, c'est ça. Hein, c'est une intervention extraordinaire de la puissance de Dieu dans notre vie. Dieu ne fait pas ça tous les jours. Il le fait d'une façon exceptionnelle pour manifester quelque chose de particulier. Et là, il le fait pour manifester physiquement l'élection, le choix, l'autorité qu'il a donné à son fils. Mais Jésus refuse d'utiliser cette toute-puissance divine pour construire un royaume de ce monde, pour construire une autorité, une puissance politique. Il refuse ce chemin-là. On sait que Satan lui a proposé. Il lui a proposé la domination des nations. Et Jésus, encore une fois, va la refuser. Alors, bien sûr, hein, c'est quelque chose qui ne peut pas nous laisser indifférents, hein, dans notre rapport au monde qui nous entoure. Ce choix que Jésus fait de refuser le pouvoir, c'est quelque chose qui doit nous interroger. Et ce texte va même encore plus loin. Puisque Esaïe, donc, quand il parle de ce serviteur, il dit « Il ne cherchera pas querelle, il n'élèvera pas le ton, on n'entendra pas sa voix dans les rues. » Le Christ choisit de parler à des gens, de leur parler finalement en les regardant dans les yeux. Il ne fait pas de meeting, d'accord ? Il ne fait pas de manifestation dans la rue. D'accord ? On est en plein dans des... enfin bon, c'est tout le temps, hein, mais bon, il y a plein de manifestations tout le temps avec des gens qui haranguent la foule. Ce texte nous dit, mais voilà, ben Jésus, lui, il fait pas ça. Il ne crie pas dans les rues, il n'ameute pas de gens. Il fait pas de marche de protestation ou de c'est pas la façon qu'il choisit de se manifester. Alors quand je dis ça, hein, je dis pas qu'on n'a pas le droit de manifester, ça m'est déjà arrivé. On est des citoyens français, et si on n'est pas d'accord avec quelque chose, on a le droit de manifester, c'est pas mon propos. Ce que je dis simplement, c'est que dans la façon dont Jésus choisit de se faire connaître, c'est pas ce chemin-là qu'il prend. Il ne cherche pas querelle. Il n'entre pas dans le conflit. Alors, Il faut bien voir, évidemment, de quel conflit on parle. Hein. Il y a d'autres textes qui nous parlent du fait que le royaume de Dieu est pour les violents, du fait aussi que Jésus va apporter la division dans les familles, entre le père et le fils. Bien sûr que l'impact de l'évangile dans la vie, dans notre vie, elle contient une violence. Une violence dans le sens que nous devons nous convertir, nous devons changer de direction, nous devons prendre choisir une nouvelle appartenance, choisir une nouvelle identité, la recevoir. Et ça, ça se fait pas sans souffrance et sans une certaine violence. Dans la nécessité de rejeter ce qui était ancien pour s'attacher à ce que Dieu nous propose de nouveau. Mais ici, Jésus refuse les querelles de mots, les querelles de les querelles de pouvoir, les querelles pour savoir qui est le plus fort. Qui a raison, qui doit imposer sa volonté. Jésus impose pas sa volonté. Il impose pas sa puissance, mais parfois il la montre. Parfois il la montre, et c'est ce qui fait là, hein, quand il a guéri tous ceux qui étaient venus le voir, il a manifesté cette puissance. Mais il ne l'a pas imposé. Il n'élèvera pas le ton. Je ne sais pas si. Moi, quand je discute et quand j'argumente sur quelque chose, suivant comment la conversation tourne, bon, ça peut m'arriver de crier un peu parfois. Non. C'est pas. C'est pas ma. Pas à ma gloire, mais bon, ça m'arrive. Jésus, quand il s'adresse à nous, il ne crie pas. Vous vous rappelez cet épisode de la vie de Élie, quand il est sur la montagne, et que Dieu se révèle à lui, et qu'il y a le tremblement de terre, qu'il y a le tonnerre, et dans tout ça, Dieu n'est pas là. Et finalement, il y a une brise douce qui passe. Et Dieu est là. Alors, c'est comme ça que ça marche dans nos vies. Alors, je dis ça, parfois Dieu nous tape un peu sur la tête quand même. Hein ? On a tous vécu des moments où on est passé par des moments de remise en question, de souffrance, de doute, parce que les circonstances de nos vies nous chamboulent. Mais la voix de Dieu, elle s'exprime sans qu'il ait besoin de crier. Parce que ce qu'il a à nous dire, ça concerne ce dont nous avons réellement besoin. Ce pain de vie, c'est ce qui correspond à ce dont nous avons vraiment besoin. Il n'y a pas besoin de nous l'enfoncer dans la bouche. Le Christ nous propose la vie, et il nous propose de la saisir, et de le faire, évidemment, librement. Quand j'ai lu ce passage sur le serviteur, ce qui m'a marqué, c'est que je vous l'ai dit, hein, j'ai choisi ce passage parce que j'avais envie de quelque chose qui nous réconforte dans la patience que Dieu a avec nous. Mais ce qui m'a marqué dans ce passage-là, c'est au contraire que quand Dieu nous parle de ce serviteur, ce texte d'Ésaïe, évidemment, ça fait référence à Jésus. Mais on l'a chanté, on le dit souvent, le Christ est notre modèle. Le Christ nous appelle à nous identifier à lui, à le suivre dans ses pas. Et quand j'ai lu ce passage, voici celui que j'ai choisi, celui que j'aime et qui fait ma joie, je me suis dit, mais ça, c'est moi aussi. C'est moi, et puis c'est vous. Vous vous rendez compte, Dieu nous propose de nous identifier au Christ, de devenir comme lui. Et ça veut dire qu'il peut dire aussi de nous, voici mon serviteur, celui que j'aime. Alors, bien sûr, ok, donc le côté un peu d'auto-apitoiement sur soi-même et sur la faiblesse de sa foi, c'est une chose. Mais ce texte, finalement, nous propose de dépasser cette faiblesse pour entrer dans quelque chose qui est beaucoup plus grand, qui est la position du Christ lui-même. Il est celui qui nous précède, celui qui nous a appelés, il nous appelle à le suivre, et finalement à accepter d'entrer dans cette démarche-là où nous-mêmes, nous devenons serviteurs de Dieu. Et dans ce service, nous rentrons dans une relation où Dieu peut nous dire « Je t'ai choisi ». Et tous autant que nous sommes, Dieu nous a choisis. Avec nos faiblesses, avec nos luttes, avec notre péché. Mais il nous a choisis, il nous aime et il attend de nous que nous le servions. Et dans ce passage, peut-être vous remarquez qu'il est dit, il annoncera la justice aux nations. Jésus n'a pas annoncé lui-même la justice aux nations. Vous vous rappelez tous ces passages où il va être confronté à des... Enfin, vous vous rappelez cette femme samaritaine. Il va parler, évidemment, à ceux, aux Romains, aux Samaritains, à ceux qui sont extérieurs au peuple. Mais il va rappeler que, durant le temps de sa vie, son message, il l'apporte au peuple juif. Ceux qui apportent le message et l'évangile aux nations, c'est nous. C'est nous. C'est nous, les serviteurs qui apportons cette justice aux nations. À travers nous, le message du Christ est apporté à nous qui sommes déjà les nations. Et c'est intéressant de voir que quand Ésaïe parle de ce qu'apporte le serviteur, donc vous avez entendu, moi j'ai dit évangile, la bonne nouvelle. Ésaïe, lui, il n'emploie pas évangile et bonne nouvelle, lui il emploie le mot justice. Le serviteur apporte la justice aux nations. Alors, qu'est-ce que c'est que cette justice ? Ben, la justice, c'est peut-être déjà ce qui est juste, ce qui est conforme au droit que définit Dieu, ce qui est conforme à la volonté de Dieu, ce qui détermine la mort et la vie. Parce que la justice de Dieu, c'est bien ça qu'elle fait. Elle montre ce qui est vivant et ce qui est mort. La justice apportée au monde, eh bien, c'est le salut de Dieu. C'est le plan de ce salut, par où il doit passer, par quoi nous devons passer pour être justifiés aux yeux de Dieu. C'est ça que fait le serviteur que Dieu a choisi. Il apporte le chemin et la vie. Alors je continue avec donc la deuxième partie de ce passage, à partir du verset 20. Il ne brisera pas le roseau qui se ploie, il n'éteindra pas la lampe dont la mèche fume encore. Non, il agira encore jusqu'à ce qu'il ait assuré le triomphe de la justice. Alors un roseau qui ploie et une mèche qui fume encore. Je ne sais pas trop à quoi servaient les roseaux à ce moment-là. Mais je pense qu'effectivement, un roseau qui n'est pas droit, bah, ne sert pas à grand-chose. Et quant à la lampe qui fume, c'est intéressant, cette lampe qui fume, hein, donc bon, c'était des lampes à huile, hein, qui étaient utilisées à l'époque. Mais une lampe qui fume, non seulement elle produit pas de lumière, mais en plus, elle fait de la fumée. Donc non seulement elle est inutile par rapport à son but premier qui est d'apporter de la lumière, mais en plus elle apporte de la fumée et du désagrément à ceux qui sont là. Et ce texte nous dit il ne l'éteindra pas, cette lampe. Et c'est ça que fait le Christ avec nous. Alors, bien sûr, moi ça me fait du bien dans le sens que je me dis, voilà, si moi je suis dans un état où je ne suis pas capable d'aider mes frères, si je ne suis pas capable d'apporter de la lumière à un moment donné dans ma vie, eh bien le Seigneur ne me mettra pas dehors. Il ne se débarrassera pas de moi. Alors, bien sûr, il y a d'autres textes, hein, qui parlent de l'assurance du salut. Là, il ne s'agit peut-être même pas tellement de cette dimension du salut, même si je pense que ça en fait partie, mais c'est aussi dans la relation à Dieu. Ce texte nous parle de la patience de Dieu à notre égard, même quand nous sommes une gêne pour nos frères et sœurs. Et puis évidemment, ça me parle aussi de l'Église. Hein, parce que parfois nous sommes, c'est vrai, une plaie pour les autres. On fait du bruit, on n'apporte rien, on critique, on fume, beaucoup de fumée, pas beaucoup de lumière. Et parfois je me dis, celui-là quand même, hein, s'il pouvait aller fumer dehors, ce serait pas plus mal. Et le Seigneur nous dit, oui ben non, ton frère qui fume, peut-être il a brillé avant, peut-être il brillera encore après. Aujourd'hui il fume. Eh bien moi, je ne le mets pas dehors. Moi, je ne l'éteins pas. Je ne tourne pas le bouton pour arrêter tout ça. Je vais regarder à cette petite étincelle qui est encore là, qui fait que justement, cette petite étincelle, elle fume encore. C'est parce qu'il y a encore quelque chose de vivant là-dedans que ça fume. Peut-être que s'il était complètement mort, il n'y aurait plus rien. Mais il y a encore cette étincelle. Alors évidemment, Évidemment, quand je regarde mes frères et sœurs, eh ben, le Seigneur m'appelle à avoir ce même regard. Que malgré la fumée, il y a quand même une étincelle. Et que le Seigneur, lui, il continue à agir. Le texte nous dit, il agira encore jusqu'à ce qu'il ait assuré le triomphe de la justice. Là aussi, c'est étonnant comme façon de dire les choses. Assurer le triomphe de la justice. Quand on entend triomphe de la justice, on pense à la fin des temps. Hein, on pense au retour en gloire de Dieu, de Jésus qui met à terre tous ses ennemis. Pourtant, dans ce texte, c'est pas tellement cette notion de toute puissance manifestée dont il est question. Il est encore question de cette justice de Dieu. Le texte conclut en disant, les peuples mettront leur espoir en lui, tous les peuples. Alors, évidemment, c'est pas tout le monde dans tous les peuples, hein, mais le message de Christ s'est répandu sur toute la terre. J'entendais une émission hier à la radio qui parlait de. Bon, qui était plutôt axé sur l'Église catholique, mais donc qui parlait de 1 milliard de chrétiens. Bon. Alors, quand on essaie d'avoir des chiffres aussi grands, bon, des gens qui se disent ou qui font référence au christianisme. Bon, très bien. Mais tous les peuples mettront leur espoir en lui. Ce triomphe de la justice, pour moi, dans ce texte-là, ce triomphe, c'est que, eh bien, tous ceux qui ont été choisis, tous ceux qui ont été appelés, tous ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie, cette justice qui triomphe, pour moi, elle est là. Elle est que ce rapport juste à Dieu, cette vie donnée et reçue, eh bien le triomphe de la justice, en tout cas de ce que je comprends de ce texte, il est là. Quand tous ceux qui étaient appelés à recevoir cette étincelle de vie, quand tous ceux-là l'auront reçue, alors la justice aura triomphé. Et alors la gloire de Dieu pourra paraître. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et je pense que nous pouvons. Alors nous pouvons attendre la gloire, bien sûr. Mais ce texte nous encourage à espérer la justice, à espérer que le Christ agisse encore dans la vie. De ceux qui ont besoin de lui, de ceux qui sont appelés à recevoir sa parole, à recevoir son esprit. Et nous qui sommes les serviteurs, nous qui sommes justement appelés à annoncer cette justice. Oui. Quand on espère le triomphe de la justice, nous sommes partie prenante de cette marche vers le triomphe de la justice. Parce que nous sommes appelés à annoncer cette justice, à la donner à ceux qui sont autour de nous. Et je vais terminer avec ça. On peut tous avoir des moments de doute. Avoir des moments où on pense que notre foi est faible, que on n'a peut-être pas grand-chose à donner. Mais vous connaissez cette parole, dans ma faiblesse, c'est toi qui es fort. Alors, soyons pas trop effrayés par nos faiblesses, mais plutôt réjouissons-nous de la patience de Dieu pour nous. Réjouissons-nous aussi de ce projet qu'il a, d'annoncer la justice à toutes les nations. Et puis réjouissons-nous parce qu'il nous a choisis. Parce que quand nous arrivons, on peut entendre cette voix qui dit « Voici mon serviteur ». Et je m'arrête là. Peut-être on peut réfléchir à un dernier chant, si vous voulez bien. Est-ce que quelqu'un voudrait proposer un chant, peut-être ? Si vous n'en avez pas un, peut-être que... On peut peut-être chanter « Nous voici Seigneur », le 351. « Nous voici Seigneur pour louer ton nom ».